Cour de critique par le père Philippe à Saint-Jeudard le 11 février 1994.
Quelques questions, plan critique. Peut-on dire que l'intention, en tant qu'acte de l'intelligence pratique, qui découvre la fin, est l'analogue du jugement d'existence de l'intelligence spéculative, qui découvre la réalité? Je n'oserais pas dire tout à fait ça. Parce que l'intention qui découvre la fin présuppose ce premier amour. Est-ce que l'analogue, ce n'est pas le premier amour? L'analogue au jugement d'existence. Le premier amour me met en contact avec le bien. Le bien, c'est la réalité existante qui m'attire et qui réalise en moi un amour spirituel. Cet amour spirituel me met en contact, c'est sûr, intentionnellement, puisque l'amour n'est pas la réalité, n'est pas le bien. Comme le jugement d'existence me met en contact avec la réalité existante. C'est plutôt comme ça que je verrais, moi. Parce que déjà, le jugement, l'intention, on est déjà dans quelque chose qui relève beaucoup plus de ma réponse au bien. C'est le bien qui existe. La fin, c'est mon intelligence qui la découvre à l'intérieur de l'amour. La fin, c'est déjà quelque chose qui vient de mon intelligence et qui qualifie ce bien. Le bien est fin quand justement il n'y a rien au-delà de ce bien. Un bien relatif n'est pas fin, il est moyen. Quand je touche intellectuellement la fin, je considère que ce bien est un bien absolu, au-delà de quoi je ne peux pas aller. Et comme le jugement d'existence est un certain absolu qui montre la réalité au-delà de quoi je ne peux pas aller. Autrement, je tombe dans l'imaginaire. C'est pour ça que je crois, je mettrais plutôt l'analogie de cette manière-là. Deuxièmement, y a-t-il une importance de commencer par la connaissance affective plutôt que par la connaissance artistique? Oui, alors voyez bien l'ordre différent de la recherche philosophique et de la critique. Dans la recherche philosophique, je crois qu'il faut mettre la connaissance artistique avant la connaissance affective morale. La première connaissance que nous avons génétiquement sont des connaissances symboliques. L'enfant joue et son jeu est symbolique. Vous savez bien quand des gosses jouent et que vous voulez rentrer dans leur jeu, ils vous expliquent. Et quand il vous explique, tout est symbolique. On construit une maison, il n'y a rien du tout, mais on construit une maison, on construit, tout est construit. Et si vous ne voulez pas entrer dedans, mais vous n'entrez pas dedans, c'est symbolique. Nos connaissances sont premièrement symboliques. Elles sont représentatives. Elles sont symboliques. Donc, génétiquement, Dieu, comme dit Dante. Et donc, puisque l'art est petite fille de Dieu, c'est l'œuvre d'art, petite fille de Dieu. Elle est plus proche de moi que la nature, d'une certaine manière. Je découvre l'œuvre d'art comme quelque chose qui est plus proche de moi. Ça vient de l'homme. Mais quand Nietzsche dit, quand je regarde une ville construite par l'homme, je dis l'homme. Quand je regarde la mer et la montagne, je dis Dieu. Et c'est vrai qu'il y a une connaturalité plus grande dans une œuvre d'art pour moi que la réalité physique. C'est pour ça que, au point de vue philosophique, je crois que le premier point de départ génétique de la philosophie, c'est étudier l'activité artistique. L'homme transforme l'univers. Pour transformer l'univers, il faut une certaine connaissance de l'univers, mais une connaissance assez limitée. Tandis qu'en critique, c'est le déjà connu. Or, j'essaie en critique de saisir le point de départ de ma vie intellectuelle. Découvrir comment l'intelligence est faite pour l'être, c'est l'aspect fondamental, vous voyez. C'est répondre à Kant qui considère que toute sa philosophie implique des formes a priori. Pour nous, il n'y a pas de forme a priori. Ou plus exactement, la philosophie supprime tous les a priori. Elle doit les supprimer. Tandis qu'au contraire, Kant accepte ces formes a priori comme ce qui transcende. Alors, en philosophie et en critique, je commence par l'intelligence dans toute sa pureté, l'intelligence spéculative. Puis ensuite, je vois comment l'intelligence et la volonté sont les alliances les plus profondes. Intelligence et volonté et capacité d'aimer se développent parallèlement, constamment. Ils s'unissent par moments. Ensuite, je vois comment l'intelligence est liée à l'imaginaire et aux expériences. C'est le point de vue connaissance artistique. Donc, vous voyez, l'ordre est très différent. Il y a un ordre génétique au plan philosophique et au point de vue critique. J'essaie de saisir l'élément premier. Quel est le vécu premier de mon intelligence? Primo cadit in intellectus ens. Ça, c'est la découverte critique. Et c'est l'être que mon intelligence saisit fondamentalement en premier. Mais je ne peux pas le dire tout de suite, ça, ce serait un a priori. Mais en réfléchissant sur ma connaissance, je vois que je ne peux pas aller plus loin que l'être. Je peux aller plus loin subjectivement en affirmant le non-être. Le non-être est subjectivement plus fondamental, comprenez-vous ? primit quiditatem sive essentiam entis. Oui, ça, toute la connaissance quiditative du Saint-Thomas qui nous connaissons toujours tout per modum quiditatis. Bon. Je suis tout à fait d'accord. Toutes nos connaissances sont liées à ce premier mode de connaissance qui sont les prédicats. Les prédicables per modum quiditatis. Genre et différence spécifique. Donc, c'est la connaissance au niveau premier. Dès qu'on est en philosophie, s'ajoute à cela la connaissance inductive. Et je passe d'un étage à l'autre, d'une vitesse à l'autre. Et la connaissance inductive me fait saisir les principes. Les principes, je ne les saisis plus per modum quiditatis. Je les saisis dans leur indivisibilité. C'est le propre de la saisie d'un principe. Et donc, c'est la ratio. Et je vous ai déjà dit qu'il fallait mettre un parallèle entre la quiddité et la ratio. La quiddité, c'est le premier mode de connaissance de mon intelligence qui n'est pas encore philosophique, qui est pré-philosophique. Toute connaissance pré-philosophique est par mode de prédicable, par mode quiditatif. Tout notre langage est au niveau quiditatif. Parce que notre langage n'est pas au niveau philosophique. Grâce à Dieu. Notre langage est au niveau de la saisie normale, première des choses. Tandis que dès que je fais la philosophie, je saisis les principes et je passe à une connaissance inductive. Alors, res, chez saint Thomas, qui exprime l'essence de l'être, exprimit quiditatem sive essentia mentis. Oui, sive essentia mentis. Alors, la quidité et l'essence, pour saint Thomas, c'est constamment la même chose. Ça, c'est très proche d'Avicenne. C'est le théologien qui ne s'inquiète pas de tout ça et qui prend son bien partout. Le philosophe doit distinguer le niveau de la connaissance d'abstraction universelle et d'abstraction formelle. Au niveau de la connaissance de l'universel, simple. J'ai une connaissance per modum quiditatis par genre et différence spécifique. Dès que j'entre en philosophie, je connais les principes propres. Et les principes propres me mettent dans une connaissance qui n'est plus per modum quiditatis, mais une connaissance qui permettra une connaissance scientifique au-delà des prédicats. Alors, la res, au niveau du de veritate, est-ce que vous avez à la bibliothèque la traduction du de veritate au niveau des transcendentaux? Non. Elle a existé un moment. Il y a eu un frère qui a dû la prendre et la mettre dans sa poche. Pas vous, hein. Vos frères aînés, vaut mieux accuser les frères aînés qui sont absents. Quelqu'un qui est suffisamment fort en philosophie rendrait un service aux autres, suffisamment fort en latin, et en latin de saint Thomas, devrait traduire cette question. Il faut que tous vous ayez lu cette question première de l'article premier du De Veritate. C'est un article magistral. Vous voyez, il y a quelques questions de saint Thomas. cinéma qu'il faut à tout prix avoir lu. De Veritate, les cinq voies. C'est du même ordre, vous voyez. C'est du même ordre. Bon, si vous êtes attentif à cette question du De Veritate. Si vous êtes assez fort en latin, lisez-le en latin, ça vaut mieux. Question 1, article 1. Où Satan donne ce qu'on a appelé, traditionnellement en scolastique les transcendantaux. Ce sont les rationes. En montrant que certaines rationes sont convertibles avec la ratio entis. Ce que saint Thomas donne ici, essentia mentis. Essentia entis. Il dit même quiditas entis. Or, habituellement, on dira ratio entis, vous voyez. Alors là, c'est cette chose très délicate chez saint Thomas, qu'en tant que théologien, quelquefois, il ne distingue pas les niveaux. Ratio, quiditas, essentia. Ratio, essentia, quiditas, entis. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement. Bon, on ne va pas discuter indéfiniment. Ça, c'est l'influence d'Avicenne. Le mot essentia, chez Avicenne, se retrouve tout le temps. Avicenne est un néoplatonicien qui est cependant assez proche d'Aristote. Mais c'est un néoplatonicien qui assume Aristote. C'est un homme très, très, très grand. De son temps, il était considéré comme le génie de son temps, Avicenne. Alors, si saint Thomas se situe au niveau des rationes, pour montrer que la ratio, unius, est convertible avec la ratio entis. Convertible, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que tout est au niveau de la la ratio unius, la ratio veri, la ratio boni, la ratio rei est convertible. C'est convertible avec la ratio entis. Qu'est-ce que ça veut dire convertible? Ça veut dire une attribution qui a la même extension et la même compréhension. Tout ce qui implique être, implique unité, implique bonté, implique rei, implique aliquid. On est donc à un niveau de réflexion critique sur l'intelligibilité. On n'est pas du tout au niveau métaphysique. Alors, ça a été la confusion qu'a fait Suarez. Faut pas l'oublier. Dans les méditations métaphysiques. Curieux comme titre, mais c'est comme ça. Hein. Non, c'est Suarez dit que la métaphysique commence par la ratio, par le concept d'être. Il dit que ce concept d'être est fini et infini. Bon, si la métaphysique commence par le concept d'être fini et infini, la métaphysique ne commence face de Suarez. C'est pas du tout en face de Thomas d'Aquin. C'est en face de Suarez. C'est en face de... C'est le point de départ de la scolastique philosophique thomiste. Et vous comprenez dire que le point de départ de la métaphysique, c'est le concept d'être. Ce n'est plus du tout aristotélicien. Ce n'est plus du tout thomiste. Ça prépare Suarez. Ça prépare Descartes. On commence par les idées. On commence par le concept d'être. Alors la philosophie ne commence pas par le concept d'être. De Suarez à Rosmini. Rosmini, Milan. Et Rosmini dit, il y a un concept inné en nous. C'est le concept d'être. Et ça, c'est Suarez. C'est intéressant, au point de vue pensée, c'est de voir que ça aboutit à ça. Et Rosmini fait école à Milan. On est encore sous point de vue de Rosmini. Et on reste sous ce point de vue-là, qui a de la grandeur, du reste. Mais c'est de l'ontologisme. Vous voyez, on identifie l'intelligé ou l'intelligible et l'existé. On les confond. Alors, ce de veritate, si on le comprend bien, je suis dans une perspective réflexive, critique, pour voir que il y a toute une série de rationes qui sont convertibles avec l'être. C'est-à-dire qui ont la même extension et la même compréhension. Chaque fois que je dis la métaphysique du berceau et la métaphysique. Patrick Sclet dit Albert le Grand. Albert le Grand, lui aussi, parle des rationnes à la suite d'Avicenne. Albert le Grand puis son aristotélisme dans Avicenne. Saint Thomas a voulu revenir à Aristote pur, pas l'Aristote digéré par Avicenne, mais l'Aristote pur. Et l'Aristote pur, c'est le jugement d'existence. La métaphysique commence par le jugement des sens, et non pas par les rationnels. Les rationnels, c'est la critique, c'est un très beau quai, c'est une question magnifique. Je vais poser la question au père Ramirez, est-ce qu'il ne faut pas mettre ce que Suarez a mis au point de départ de la métaphysique au terme de la critique? Et le bon père Ramirez m'a dit, je vais y réfléchir. Et le soir, il m'a dit, vous avez raison. Il ne faut surtout pas commencer la métaphysique par les rationnels, on commence la métaphysique par la critique. Donc, on commence par l'intelligibilité, en identifiant intelligibilité et réalité existante. Double ontologisme. Oui, là il y a un point très très important à voir. Alors, dans la perspective de saint Thomas, quand il dit que res regarde essence, bien, je crois que c'est en dépendance d'Avicenne. Nous dirions, nous, quand j'essaie de comprendre d'où viennent les transcendentaux, je cherche l'origine des transcendentaux, puisque les transcendentaux ne viennent pas innés en moi. D'où ça vient? Ça vient d'une réflexion critique sur les points les plus profonds de ma métaphysique. Chaque fois que je saisis un principe, il y a une appréhension nouvelle. Quand je découvre la substance comme un principe, qu'est-ce que c'est que la substance? Cause propre. Selon la forme de ce qui est, en tant qu'il est. Je saisis inductivement la substance, et en saisissant inductivement la substance comme une cause et comme un principe, je la saisis au niveau du jugement. La substance est liée à l'existé, mais ce n'est pas l'existé, c'est la source de tous. Il y a de détermination existante dans la réalité. Je réfléchis alors sur l'appréhension de ce jugement. Tout jugement implique une appréhension. Et je peux dire que l'appréhension du jugement qui me fait saisir la substance, c'est la détermination. Toute réalité implique une détermination. Tout ce qui est déterminé. Si tout ce qui est déterminé, tout ce qui existe est déterminé, l'essence, c'est la détermination essentielle. L'acuité, c'est la détermination essentielle. Je peux donc dire que la ratio rei, c'est bien ce fait que tout ce qui est en tant qu'il est implique une détermination, une essence. Vous voyez ? Comprenons ce que veut dire saint Thomas quand il dit que res est l'essence. À la suite d'Avicenne. Quand je saisis la substance comme un principe propre selon la forme de ce qui est, il y a une appréhension particulière de la réalité qui est de comprendre que tout ce qui est implique une détermination. Donc la ratio rei, c'est la détermination de l'être comme être. nommé quatre transcendentaux. Le transcendentaux thomiste. Le transcendantal thomiste, dans toute sa pureté, il mérite d'être marqué en rouge. Qu'Albert le Grand n'avait pas noté, c'est Aliquid. Et pour saint Thomas, Aliquid arrive en troisième lieu, si je prends l'ordre que donne saint Thomas. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est Aliquid qui est la charnière. Albert le Grand avait dit ceci, que parmi les transcendentaux, Res est un. Propriété de l'être. philosophie et que je réfléchis sur les pylônes sur lesquels tout le reste est construit, cinq transcendantaux. Mais quand on regarde une construction comme elle existe, comme on a voulu la faire comme le chef-d'œuvre de l'architecture moderne et de l'art moderne, quand on voit ce qu'on a construit, si vous voulez, cette chose extraordinaire, cet axe qui commande tout Paris, et qui se termine par cette construction moderne qui surpilotit les transcendantaux, ces colonnes sur lesquelles tout est construit. Toute ma vie intellectuelle se construit sur les cinq transcendantaux. Et attention, les cinq transcendantaux sont le fruit de toute ma réflexion. C'est pas a priori. Mais c'est quelque chose de capital. Chose de très important. Alors il faut bien respecter ce qui achève toute la critique réaliste, les cinq transcendantaux. Il faut voir d'où ça vient. Ça vient de ma réflexion sur toute la structure de ma métaphysique. La métaphysique découverte de la substance, découverte de l'acte. Et l'acte implique les modalités de l'acte. Vrai, eh bien, et implique la propriété de l'être, de tout ce qui est en tant qu'il est là. Cherchez bien, il ne peut pas y avoir d'autre rationnel convertible avec l'être. Alors on a essayé de dire, ah mais il y a le beau, ah, le beau. Est-ce que c'est une grosse question? Louvain, la métaphysique de Louvain, dit que le beau est un transcendantal. C'est curieux que saint Thomas l'ait oublié, alors qu'il a traité le beau dans les noms divins, en commentant Denis. Pour saint Thomas, le beau n'est pas un transcendantal. Pour toute la métaphysique de Louvain, le beau est un transcendantal. Et pour Maritain, le beau et la synthèse est transcendantaux. Or, il n'y a pas de synthèse et transcendantaux, mais c'est la synthèse et transcendantaux. Mais alors là, il y a une petite querelle thomiste, amusante, intéressante, mais qui doit se prendre au niveau critique. Le beau, la ratio pulchri, ne peut pas être un transcendantal. Pourquoi? Parce que le beau ne se ramène pas directement à l'être, mais à la forme. Autrement,